Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, en effet, nous avons la joie et le privilège d'accueillir à nouveau dans notre studio de FM Évangile 66 le pasteur Paul Calzada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci. Merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
Nos auditeurs apprécient ta présence à l'antenne. Plusieurs ont fait l'effort de nous le faire savoir. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Je me réjouis de voir comment le Seigneur t'utilise, cher pasteur Paul, comme disent nos frères africains, ces derniers mois. Peux-tu nous faire un flashback sur tes activités, en commençant par le plus récent, c'est-à-dire ta nouvelle responsabilité dans l'équipe pastorale de l'église Martin Luther King de Créteil?
Nous disons entre nous l'église MLK. Le nom n'a pas été choisi au hasard, mais pour refléter une réalité. En effet, cette église est une église multiculturelle, ouverte à tous, mettant l'accent sur la fraternité qui unit tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur culture, leur couleur. Ce qui correspond exactement d'ailleurs au rêve de Martin Luther King. Cette église est en plein développement. Une équipe de 11 pasteurs y travaille, étant moi-même la 11e recrue depuis le mois de novembre 2016. Ayant pendant de nombreuses années été impliqué dans le travail missionnaire, j'ai été engagé pour développer et animer l'engagement missionnaire de cette église. Plusieurs pistes sont en réflexion, dont, entre autres, des voyages missionnaires à court terme. Un deuxième volet m'a été confié, celui de répondre aux questions des nombreux auditeurs qui suivent les cultes de MLK, diffusés en live ou sur YouTube.
En live, c'est-à-dire en direct, tout comme les émissions de FM Évangile, que l'on peut écouter en direct, ou pour certaines comme celle-ci, que l'on peut écouter ensuite en différé. Pour cela, voir les rubriques appropriées sur le site internet de la radio. Paul, une question relative à cette activité de réponse via internet qui t'a été confiée. Ce service est-il ouvert à tous?
Bien sûr. Ce service n'est pas limité aux auditeurs de MLK. Il s'étend à tous ceux qui reçoivent ou écoutent mes messages sur Lueur du Matin, ou encore sur tout autre média comme FM Évangile 66.
Merci pour cette précision qui peut encourager nos auditeurs. Car en posant la question, je pensais à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, et plus largement à toutes les auditrices et auditeurs de FM Évangile 66.
J'aimerais partager avec nos auditeurs un témoignage concernant la manière dont cet engagement avec MLK a été concrétisé. Depuis des années, suite à ma retraite administrative en 2004, comme le temps passe vite, déjà 12 ans.
En effet.
Je m'étais retiré de mes engagements missionnaires pour les confier à d'autres. Lorsque la proposition de MLK de reprendre le flambeau de la mission m'a été faite, j'ai pris le temps de la prière et de la réflexion. Il faut dire que dans la semaine qui a précédé cette proposition, un pasteur m'avait fait cette remarque. « Paul, vous devriez reprendre le travail de communication et de motivation que vous faisiez pour la mission. » Évidemment, il ignorait à ce moment-là, tout comme moi, ce qui allait m'être proposé. Dans la semaine où, avec mon épouse, nous étions en train de prier pour savoir ce que nous devions répondre, un pasteur du Portugal, une connaissance de 30 ans en arrière, mais qui ne m'avait jamais sollicité, responsable d'une église multiculturelle en banlieue de Lisbonne, m'a contacté pour me dire qu'il avait à cœur de m'inviter dans son église pour animer des réunions sur le thème de la mission du 12 au 15 janvier. J'ai compris que Dieu nous disait « Allez-y », ce qu'il a confirmé d'ailleurs par ailleurs.
Donc, tu reviens de Lisbonne.
En effet, mais on pourra en reparler lors d'une prochaine émission.
L'émission d'aujourd'hui est intitulée « Pour faire court ». Pensez d'un mois, mais il faut ajouter « Pensez d'un jour » car je fais ainsi référence aux petits fascicules que tu as déjà publiés et dans lesquels tu abordes au quotidien un thème particulier, et ce, tout au long du mois, avec pour chaque jour une rubrique précise formant cette facette de la réflexion proposée. Parmi les 13 titres déjà parus, il y a « Clarté sur l'Épître aux Hébreux ». J'ai lu, avec un grand intérêt, chaque pensée du jour. Puisque nous n'aurons pas le temps de les passer toutes en revue, j'ai sélectionné plusieurs titres qui m'ont interpellé. Paul, commençons par cette pensée intitulée « Des enfants ou des maîtres ». Qu'as-tu écrit à ce propos ?
Eh bien, je l'avais déjà évoqué lors de notre précédente émission, lorsque tu m'avais demandé un échantillon de quelques fascicules. En effet, la croissance dans la vie spirituelle est chose importante à souligner. Voici ce qui est écrit. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Partant de ce texte, j'avais dit, l'auteur reprend ses lecteurs pour leur lenteur à comprendre, pour leur infantilisme spirituel, pour leur paresse spirituelle, pour leur immaturité. Cette répréhension a pour but de stimuler leur attention, d'exciter leur désir de progresser, de secouer la torpeur et l'immobilisme. Car la tendance naturelle de tout homme, c'est celle du moindre effort. Végéter spirituellement est plus facile que de croître. Il est plus facile d'être assisté que de se prendre en charge. En écrivant ainsi, l'auteur veut stimuler et responsabiliser ses lecteurs.
Vous devriez être des maîtres, dit l'auteur. Il y a donc un décalage entre ce qui est et ce qui devrait être. Peux-tu préciser ce que l'apôtre veut dire ?
Oui, attention, le mot maître n'a rien à voir avec l'esprit de domination. Ce que l'auteur veut dire, c'est que les Hébreux devraient être capables d'enseigner. Nous devons nous poser cette question. Suis-je un assisté perpétuel ou suis-je capable de communiquer ce que j'ai reçu de Dieu ? À chacun de nous, Dieu nous appelle, Dieu vous appelle à être des hommes faits, c'est-à-dire de ceux dont la conscience est éveillée, qui ne sont pas influencés par les uns et les autres, par les modes ou les courants, de ceux qui, nourris de la parole, vivent par la puissance régénératrice, de la croix.
Paul, tu fais mention d'infantilisme spirituel. Dans une pensée d'un jour, tu en abordes les causes. Alors, quelles sont-elles ?
L'apôtre le présente ainsi. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Hébreux chapitre 5, verset 13. Dans le monde naturel, nous le savons, à part quelques cas rares consécutifs à des pathologies graves, la plupart des bébés grandissent pour devenir des adultes. Mais attention, qui dit adulte ne signifie pas toujours des hommes ou des femmes responsables. En effet, certains adultes restent des adolescents à vie. Dans le domaine spirituel, il en est également ainsi. Certains restent des bébés à vie. En identifier les causes, c'est se donner les moyens de développer des antidotes. Les causes peuvent être multiples, mais elles se divisent en deux grandes familles. Il y a des causes personnelles et des causes extérieures.
Qu'entends-tu par causes personnelles ?
Pour ce qui découle de notre propre responsabilité, nous pouvons nous complaire, soit par paresse, soit par habitude, tradition religieuse, à rester dans une position de bébé spirituel. L'auteur souligne cette paresse lorsqu'il parle, à contrario, au verset 14, de ceux qui deviennent des hommes faits par un jugement exercé par l'usage. Soulignons le mot employé par l'auteur de cette épître, le mot « exercé ». Ce mot souligne l'importance de l'exercice. Sortir de l'infantilisme spirituel nécessite un exercice. Entendons-nous bien. Il n'est pas question ici d'efforts pour gagner ou mériter quelques faveurs de la part de Dieu. En effet, tout nous est acquis par Christ et nous est offert par grâce.
Peux-tu préciser de quels exercices il s'agit ? Toutefois, avant d'écouter ta réponse, nous faisons une pause musicale. Nous en étions aux exercices spirituels qui contribuent à la croissance, au développement dans la foi des croyants, et comme tu l'as bien souligné, il ne s'agit pas d'efforts pour gagner ou mériter quelques faveurs de la part de Dieu. En effet, tout nous est acquis par Christ et nous est offert par grâce. Alors, quels sont ces exercices ?
Je me suis permis de relever juste trois versets de l'Écriture et je les rappellerai. Le premier verset, c'est dans le psaume 112, le verset 5, où il est écrit « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde ». Il est donc parlé ici de l'exercice de la miséricorde. Un tel exercice est un des facteurs de la croissance. Le deuxième verset que j'ai relevé, c'est celui de Romains chapitre 12, verset 6, où il est dit « Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Il y a donc ici la mention de l'exercice des charismes, qui est présenté comme un autre facteur de croissance. Et le dernier verset que je me suis permis de relever, c'est celui que nous retrouvons dans l'Épître à Timothée, la première, au chapitre 4 et au verset 8, où Paul dit à Timothée « Exerce-toi à la piété ». Voilà donc trois exercices qui nous sont proposés, qui sont de nature à nous faire grandir. Exercer la miséricorde, exercer les dons de l'esprit avec sagesse et contrôle, et l'exercice de la piété. Bien sûr, chacun de ces points mériterait un plus long développement, mais je laisse le soin à nos auditeurs de prolonger pour eux-mêmes la réflexion sur ces trois exercices mentionnés dans la Bible.
Tu as aussi évoqué comme facteur de stagnation spirituelle ou absence de croissance des causes extérieures. À quoi fais-tu référence ?
En ce qui concerne les causes extérieures, il y a parfois l'attitude de certains responsables spirituels qui ont tendance à se considérer comme un corps sacerdotal d'initiés face à des fidèles qui ont besoin d'être continuellement pris en charge, maternés. C'est l'infantilisation des croyants. Ils ne savent plus rien faire sans la bénédiction d'un responsable ecclésiastique. Comme le dit et le redit l'un des pasteurs de Créteil, il encourage la maturité des croyants par cette phrase « Jésus est venu vous laver de vos péchés, mais pas pour laver votre cerveau. »
Belle formule, car lavage de cerveau a en effet une connotation secte pernicieuse.
Nous devons, en tant que pasteur, viser à ce que chaque croyant entre pleinement dans sa vocation de disciple accompli, comme dit la Bible, de sacrificateur pour Dieu le Père, de responsable de ses propres choix et engagements. C'est ce que rappelle d'ailleurs l'apôtre Pierre quand il écrit « Vous-même comme des pierres vivantes ». Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est dans la première de Pierre au chapitre 2 et au verset 5. Nous retrouvons la même idée d'ailleurs dans le verset 9, mais aussi dans Apocalypse chapitre 1 et verset 6. Je voudrais ajouter ceci. Chères auditrices, chers auditeurs, croissez dans la maturité spirituelle. Entrez pleinement dans votre vocation. Devenez responsable de votre vie de chrétien. Exercez la miséricorde et la piété. Réfléchissez sur ce que l'on vous enseigne. Et comme dit l'Écriture, retenez ce qui est bon. Développez votre sens critique et votre jugement personnel dans le but de développer votre maturité spirituelle.
Il y a un texte très fort dans l'Écriture. Je le cite. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté du don céleste et sont devenus participants de l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Cela sonne comme un couperet. Qu'en est-il ? Une telle situation est-elle possible ? Peux-tu nous expliquer cela en détail ?
Merci pour cette référence. En effet, qui n'a pas été saisi de crainte à la lecture de ce verset ? J'ai rencontré de nombreux croyants qui, à la lecture de ce passage, m'ont posé cette question. Frère, Dieu peut-il me pardonner alors que j'ai commis tel ou tel péché ? J'ai toujours répondu que s'ils sont en mesure de se poser la question, c'est que le pardon est encore et toujours accessible. Si nous étudions un peu plus le texte, le mot grec employé ici pour dire « tomber » est le mot « pepto ». Nous le retrouvons dans de nombreux autres versets, et en particulier dans celui-ci. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus, tombés, ec pepto, de la grâce. » Galates chapitre 5, verset 4. Ce qui, littéralement, pourrait être traduit « Vous êtes tombés hors de la grâce ».
Si je comprends bien, cela signifie qu'il y a deux façons de tomber.
En effet, on peut tomber sur le chemin, alors que l'on marche ou que l'on court, et tomber hors du chemin, en ayant quitté le sentier. Notre vie chrétienne est comme une marche, une course, alors que nous suivons le Christ, que nous marchons et courons sur la voie qu'il nous a tracée, la voie de la grâce. Il peut nous arriver de chuter. Nous sommes sur la bonne voie, celle de la grâce, mais nous commettons un péché. Nous heurtons une pierre et nous tombons. Sur cette voie de la grâce, étant tombés, nous nous repentons et nous nous relevons pour continuer la course. Par contre, nous pouvons sortir de cette voie de la grâce pour aller sur une autre voie, la voie des œuvres et du légalisme. Et là aussi, nous tomberons, car tout homme est pécheur. Et quelle que soit la voie que l'on suive, nous tomberons inévitablement. Mais quand on tombe hors de la grâce, il n'y a pas de recours possible. Le légalisme nous juge et nous condamne. Le terme utilisé dans Hébreux désigne une chute hors du chemin, hors de la voie. C'est comme si le parapet avait été franchi et que l'on soit sorti volontairement de la voie de la grâce pour entrer sur la voie des œuvres. Il n'est donc pas question d'une défaillance spirituelle passagère, d'un creux de vague ou d'un incident de parcours, mais d'une attitude de rejet de la grâce qui est en Christ. Une chute sur la voie de la grâce peut être suivie en toutes circonstances de la repentance et du renouvellement. Mais lorsqu'on sort de la voie de la grâce, on rend vain le sacrifice de Christ. Comme le dit l'auteur de l'Épître, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait, eh bien, Christ, tu es mort pour rien. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez connu la puissante grâce du Seigneur pour votre salut, demeurez sur cette voie royale. Ne quittez pas le chemin de la grâce. Sur cette voie, il y aura toujours la possibilité de se repentir. Sachez que le sacrifice de Christ est suffisant pour vous relever de toute chute aussi longtemps que vous restez sur la voie de la grâce.
C'est clair. Merci, Paul, pour cette réponse. Je pose donc ma question suivante avec sérénité. Peut-on perdre son salut ?
Sans entrer dans un grand débat théologique, retenons que cette question présente deux angles. Je dirais qu'il y a l'angle divin, il y a l'angle humain. En ce qui concerne l'angle divin, voici ce que dit Jésus, entre autres. Dans Jean chapitre 10, verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jésus dit clairement que lorsque Dieu donne à une créature la vie éternelle, personne ne peut lui ôter cette vie. C'est là le côté divin de la vérité. D'autre part, l'Écriture avertit solennellement que nous pouvons nous-mêmes déchoir de la grâce. C'est le côté humain. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce, dira Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 4. Le Seigneur parle plus d'une fois de ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils le croient que pour un temps. C'est de cette condition que Pierre parle en citant ceux qui sont retournés plus tard en arrière. Il dit ceci, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'émotion d'un moment ne suffit pas à enraciner la vie chrétienne. Il faut plus que cela. Il faut jour après jour rester sur la fondation de la croix. Le salut est une valorisation du moi, mais au travers de la mort à soi-même. Ce don de soi conduit à la manifestation du fruit de Dieu. Dieu ne vous retirera jamais le salut qu'il vous a accordé. Ça, c'est le point 1, le côté divin. Le côté humain, pour garder ce salut, il vous suffit de rester enraciné dans sa grâce. C'est ce que Dieu a rappelé à Paul quand il lui dit « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Alors à nous de suivre ce conseil. Que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Hébreux chapitre 6, verset 11. Vous pouvez rendre grâce à Dieu en disant « Merci Seigneur de t'être engagé à me garder dans le salut. Pour ma part, je veux persévérer à demeurer dans la grâce, car elle seule m'assure le salut. »
Peux-tu nous en dire plus ?
Pour cela, je lirai ce verset. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est dit, il peut sauver parfaitement. Un bon nombre de croyants vivent une vie chrétienne en dents de scie. Les circonstances changeantes de la vie font que le sentiment bienheureux de l'amour et de la grâce de Dieu ne dure pas. Avec un changement de circonstances, hélas, vient trop souvent un changement dans leur conscience. Un changement concernant la proximité de Dieu et de son pouvoir rédempteur. Mais est-ce là ce que Dieu veut que nous vivions? Certainement pas. En effet, si Christ est toujours vivant, il peut aussi sauver continuellement. S'il nous a introduits dans le sanctuaire, il peut aussi nous y maintenir, pourvu que nous nous reposions sur lui. Il est toujours vivant, dit l'Écriture, pour intercéder en faveur des siens. Il est toujours vivant. L'ancienne alliance de Dieu avec Israël s'était montrée insuffisante. Bien que le peuple se fût déclaré prêt à en accepter les conditions, ils ont dit dans Exode 24, verset 7, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Belle promesse, bonne résolution, mais ignorance profonde de soi-même. L'alliance fut bientôt oubliée et la promesse violée. Il manquait à Israël la force nécessaire pour tenir ses engagements. Aussi Dieu promit-il plus tard une alliance nouvelle, en vertu de laquelle il comblerait lui-même la lacune de la première, en donnant à son peuple le pouvoir d'obéir. Promesse d'une alliance de vie, remplissant le cœur d'une vie nouvelle, d'où l'obéissance jaillirait tout naturellement. La nouvelle alliance repose sur les mérites de Jésus. Le salut qu'il nous apporte est parfait, complet, achevé. Non seulement il nous sauve de la condamnation en expiant nos péchés, mais également il vient vivre dans nos vies afin de nous donner la capacité de marcher en nouveauté de vie. Non seulement il pardonne mes mensonges, ma violence, ma haine, etc., mais il me donne la capacité de dire la vérité, de pardonner, d'aimer, etc. Oui, à lui soit la gloire. Il nous accorde un salut parfait, comme le dit Paul à Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. »
Sur cette belle parole, nous faisons une nouvelle pause musicale. Avant d'aborder une autre pensée tirée de l'Épître aux Hébreux, puisque au mois de décembre tu as séjourné à Ouagadougou, peux-tu nous donner quelques nouvelles de l'Église de Jésus-Christ qui se développe au Burkina Faso ?
En effet, ce fut un grand bonheur, en effet, au début de ce mois de décembre et ce pendant 15 jours, de nous retrouver avec mon épouse, ma sœur et mon beau-frère Jean Serré au Burkina Faso. Ce voyage était programmé depuis presque un an, sans savoir, à l'époque, quelle serait l'orientation de notre service au sein de l'église MLK, en faveur de la mission. Mais le grand directeur des ressources humaines, notre Dieu, avait tout prévu.
Alléluia!
Nous avons été émerveillés par la croissance des églises, par le nombre toujours plus grand de croyants, par la qualité des responsables, par le développement des œuvres sociales, écoles, collèges, lycées, et surtout par le développement du pôle médical avec l'extension de l'hôpital Chifra, dirigé par Marie-Claire Traoré. Nous avons pu constater, une fois encore, que le travail social initié par feu le pasteur Pierre Dupré porte des fruits encore visibles aujourd'hui. Ce séjour nous a ramené plus de 50 ans en arrière. Quel moment de nostalgie! Quand nous foulions pour la première fois cette terre appelée alors la Haute Volta. De nombreux anciens élèves, aujourd'hui de vénérables grands-parents, les uns médecins, d'autres chirurgiens, professeurs, pasteurs, même députés ou ministres, sont venus nous saluer et nous exprimer leur reconnaissance pour le travail effectué par le missionnaire fondateur et par tous ceux qui sont venus à sa suite.
Et faisant preuve de curiosité, puisque maintenant, grâce au web, on peut nous écouter dans le monde entier, sais-tu si nous avons des auditeurs là-bas ?
Je suis désolé, je n'ai pas posé la question. Mais c'est fort possible. Aussi, je me permets de saluer tout particulièrement nos auditeurs qui nous suivent aussi bien en Afrique que sur les 5 continent.
Revenons à l'Épître aux Hébreux. Elle apporte un enseignement profond, doctrinal. Je me souviens d'un homme qui, voilà plusieurs décennies, a trouvé le salut en examinant l'Épître aux Hébreux dans le texte grec. C'était pendant ses vacances d'été. Cet homme était professeur de français grec dans un lycée du département du Rhône. Paul, tu nous as parlé du salut parfait. Tout un chacun, ayant fait des études ou non, est appelé à le recevoir. Cela souligne que nous sommes des graciés. Un ami à ce propos disait des PDG, c'est-à-dire des pécheurs délivrés par grâce. Toi, que nous en dis-tu ?
Quel bonheur de savoir que nous sommes tous des PDG, des pécheurs délivrés par grâce, à retenir. L'apôtre illustre ce qu'est cette grâce qui nous sauve en utilisant l'image d'un navire. Comme le navire est retenu par l'ancre jetée dans la profondeur des eaux, où elle atteint le fond invisible, nous sommes de même tenus et attachés à Dieu par l'espérance qui s'accroche à l'œuvre expiatoire de Christ. L'auteur dit que le navire a trouvé un refuge au sein de la tempête, dans une anse abritée. Voici ce qu'il dit, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Hébreux, chapitre 6, versets 18 et 19. Donc c'est là, à l'abri de l'assaut du vent et des vagues, que ce navire a jeté l'ancre. C'est là que le navire est en sécurité. À certains moments de notre vie, nous traversons des situations difficiles. Et nous sommes comme ce navire, secoués par le vent et assaillis par les vagues. Nous pourrions sombrer dans le désespoir et être engloutis par les épreuves. Mais Dieu qui nous aime nous propose un refuge. Ce refuge est en Christ, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui le refuge qui nous a été offert. Dans le livre des Proverbes, nous retrouvons ce verset, au verset chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Cette notion de refuge. Et se trouve en sûreté. Jésus est le seul qui a expié nos péchés en donnant sa vie au calvaire. C'est son sang versé qui nous lave et nous purifie de toutes nos iniquités. C'est à cette œuvre expiatoire que nous sommes solidement attachés. Nous y avons notre ancre. C'est là que repose toute notre espérance.
N'y a-t-il pas d'autre lieu où jeter l'ancre ?
Oui, bien sûr, nous pourrions être tentés de chercher un refuge dans nos œuvres, dans des rites, dans des pratiques ou des organisations religieuses. Gardons-nous de succomber à cette tentation. Notre seul refuge est Jésus. Enracinés et fondés en Christ, nous tiendrons bon par sa grâce. Comme dit Paul aux Éphésiens, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Vous avez tout pleinement en lui. » Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 10. Il n'y a aucun risque pour que cette espérance nous déçoive. Elle est sûre et solide. Quelle force dans cette espérance! Puisqu'il ne peut y avoir un autre refuge aussi sûr que celui que Dieu nous propose en Jésus-Christ, venez, bien-aimés, vous réfugiez en lui. Et vous expérimenterez ce que dit le psalmiste dans le psaume 91, verset 4. « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. »
C'est bien là, pour nous qui croyons, l'action d'entrer dans le repos, celui de Dieu, comme l'évoque l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Nous arrivons au terme de cette émission. Une précision à l'attention de ceux qui seraient intéressés par le fascicule duquel tu as tiré quelques réponses et intitulé « Clarté sur l'Épître aux Hébreux ». Ce fascicule, vendu 5,90 €, est disponible à l'adresse suivante. Édition Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan-Corbière. J'ajoute que d'autres titres sont également disponibles, dont « Connexion divine », écrit par le pasteur Éric Sellerier, l'un des 12 copasteurs à l'église MLK à Créteil. Paul, y a-t-il un prochain sujet à paraître aux éditions Esdras ?
J'ai la joie de dire avec un immense plaisir, oui, il y a plusieurs sujets qui sont en préparation. Et j'ai une bonne nouvelle à partager, c'est que 5 titres vont paraître prochainement. Ils sont actuellement chez le graphiste pour la mise en page. Il s'agit de ces livres dont les titres sont « Le chrétien et l'argent », « Le fruit de l'esprit », le troisième « Si on parlait pardon », le quatrième « La prière au fil des jours » et le cinquième « Les temps de la fin ». Je tiens à rappeler que les autres titres sont toujours disponibles, ainsi que le volume « Lueur du matin » contenant 366 méditations à lire au fil des jours. Je rappelle également à nos auditeurs que les pensées du jour sont disponibles gratuitement au jour le jour sur le site « Lueur du matin », accessible en passant par Google. Abonnez-vous gratuitement avec votre adresse mail.
Merci encore, cher pasteur Paul, comme disent nos frères africains, de nous avoir entraînés dans ces pensées du jour, puisées dans l'Épître aux Hébreux. Je rappelle que, Dieu voulant, nous nous retrouverons au printemps, puisque cette émission à laquelle tu apportes ta contribution est trimestrielle. Une dernière précision pour anticiper la remarque d'un auditeur attentif. Nous avons fait état en début d'émission de ton récent déplacement à Lisbonne, du 12 au 15 janvier. Engagement a été pris de partager des nouvelles de cette visite au Portugal dans notre prochaine émission. Nous ne l'avons pas fait ce jour, car cette émission qui se termine a été préparée avant ton départ là-bas. Sur le site internet de la radio, vous avez la possibilité d'écouter en différé ou de télécharger ce que vous venez d'entendre. Le texte du message est aussi à disposition, ainsi que ceux concernant les émissions précédentes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Adiós.